l'ambiance, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance.
Hey, ambiance Africa, oh, 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 avec Aïssa Diab. C'est l'Afrique qui bouge à Paris.
Et nous allons parler d'un événement Femmes en Action contre l'excision, un événement qui aura lieu aujourd'hui à 17h à l'AFD, c'est l'Agence Française de Développement. Et pour en parler, j'accueille en provenance du Kenya et de passage à Paris pour quelques jours, pour un petit peu parler de ses actions et de ses combats, j'accueille la militante Masai Nailante Langete. Merci Nice d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Alors vous êtes accompagné de vos traductrices donc qui vont traduire l'interview. Merci d'être avec nous. Vous allez bien?
Thank you. I'm very fine. Thank
Je
you
vais for très bien. Merci.
Alors j'ai vu que vous étiez reçue hier à la mairie de Paris pour raconter, parler un peu de vos actions. Alors comment s'est passée cette rencontre?
We had a great meeting yesterday. Really trying to discuss on the work that we are doing on the fight against female genital mutilation.
Travail que nous
and also, I had an opportunity to hear from them what they are also doing.
Et nous avons également abordé les travaux qui sont menés à Paris. Ceci nous a permis de discuter ensemble des réussites et des efforts qui sont élaborés ici, parce que je pense que l'excision et ces mutilations sont très importantes.
Alors justement, ce soir, le public est invité à l'appel de l'AMREF et des réseaux d'excision. Parlons-en à venir assister à une conférence où vous allez vous raconter vos actions, raconter vos missions également contre l'excision. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ce soir à Paris entouré de ces femmes qui combattent ici en France depuis des années déjà pour raconter un petit peu vos expériences et votre histoire?
I believe that
this
will be a great meeting and a great honor for me
because I'll be meeting important women who are also doing amazing jobs. Parce que je vais rencontrer des femmes exceptionnelles qui font un travail exceptionnel sur les mutilations sexuelles féminines. Il ne faut pas oublier que l'Afrique n'est pas le seul endroit où ces mutilations sont pratiquées, mais c'est un problème planétaire. Donc aujourd'hui est un jour important pour moi parce que je vais avoir l'occasion d'avoir un échange d'idées avec ces femmes. Nous allons également parler des autres personnes qui œuvrent pour l'élimination de ces mutilations. L'important aussi est de rester connecté. Toutes les interventions il y a des interventions qui ont lieu ici et nous allons pouvoir échanger sur le bien fondé de ces interventions et essayer de trouver une solution à l'échelle mondiale.
Alors vous êtes devenue ambassadrice de l'AMREF contre les mutilations génitales féminines et en 2018, le Time Magazine vous a classé parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète. En fait, votre combat vient aussi de votre histoire, hein, puisque à 8 ans, vous avez fugué. En fait, vous étiez dans un orphelinat et vous avez fugué pour échapper à l'excision. Et c'est à très tôt, en fait, qu'a commencé votre combat, Nice.
Ma lutte a commencé quand j'étais très jeune, après avoir perdu mes parents. J'avais 7 ans et j'ai dû aller vivre avec mon grand-père. Mon grand-père était âgé, ne pouvait pas vraiment s'occuper de moi. Et donc, on m'a envoyé au pensionnat. C'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était que l'excision et savoir que toutes les filles ne devaient pas nécessairement les subir. Pour nous, c'était obligatoire. Et donc, j'ai vu des jeunes filles de 10, 12 ans quitter l'école, se marier après l'excision. J'ai vu mes amis ne plus pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir étudier. Et c'est pour ces raisons que j'ai décidé de ne pas subir l'excision et de poursuivre mes études. Ça n'a pas été facile de convaincre ma famille. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une pratique qui est obligatoire pour toutes les filles. C'est un rite de passage pour devenir une femme. Dans ma famille, mes oncles ont voulu que je sois excisée. Je ne le souhaitais pas. J'ai dû fuir à deux reprises. Je me suis levée à 4 heures du matin. Il ne faut pas oublier L'excision est pratiquée très tôt le matin. Il faut prendre une douche avec de l'eau très très froide après avoir dormi dehors. On ne vous donne pas d'anesthésie. Mais quand on prend une douche avec de l'eau froide, cela endort les sens. Mais on m'a dit que si je refusais l'excision, aucun homme de ma communauté n'accepterait de se marier avec moi. Donc à 4 heures du matin, comme je ne voulais vraiment pas subir cette excision, je me suis échappée. Par la suite, on m'a rattrapée, j'ai été battue par mes oncles, on m'a ramenée et ils ont prévu de m'exciser un petit peu plus tard. Et la deuxième fois, j'ai pu m'échapper à nouveau, mais ma sœur a décidé de ne le pas faire. Elle a dit qu'elle avait 2 ans de plus que moi et qu'elle allait sacrifier pour que moi je puisse avoir la possibilité d'aller à l'école. Donc ma sœur a subi l'excision, elle s'est mariée ensuite et c'est pour cette raison, c'est parce qu'elle s'est sacrifiée que j'ai décidé de poursuivre ce travail. J'ai des sœurs en Afrique qu'il faut que je sauve et puis mon grand-père aussi a joué un rôle important dans cette décision de ne pas me faire exciser.
Alors, vous êtes la première femme à vous adresser au conseil des anciens Maasai du mont Kilimandjaro. Vous avez réussi, en fait, à les persuader d'interdire ces mutilations génitales contre échange, hein, puisque à la place, ce sont d'autres rites qui sont pratiqués pour que le passage à l'âge, enfin, de jeune fille à femme s'effectue selon les règles, en fait, traditionnelles des Maasai. Alors, racontez-nous un peu comment vous y êtes pris, quelles ont été les réactions de ces anciens qui sont ancrés quand même dans ces traditions et ces pratiques depuis des millénaires. Alors, dites-nous un peu comment se sont passées les discussions.
La transformation d'une culture n'est pas facile. Il ne faut pas oublier que les mutilations génitales féminines sont une culture qui est profondément enracinée dans la société. Donc il faut changer les comportements, changer les états d'esprit. Donc avec la MREF, ce que nous faisons, c'est de la sensibilisation parmi les membres de la communauté. Ils doivent comprendre quelles sont les implications de cette pratique pour la santé, comment elle a une influence sur l'économie, sur l'éducation des filles. C'est également une question d'habilitation économique. C'est également une question d'égalité entre les sexes.
Oui.
Et il est nécessaire donc d'impliquer les hommes, les femmes, les leaders culturels dans la société. C'est pourquoi nous avons mis en place des forums, le forum mère-fille, où mère et fille peuvent discuter de ces questions de santé reproductive et sexuelle. Nous avons également des leaders pour les dirigeants, les leaders culturels, pour les jeunes femmes. Il ne faut pas oublier que souvent les femmes non excisées n'ont aucune chance de pouvoir se marier. Donc on a des forums avec les jeunes hommes pour bien leur expliquer les implications. Et il faut que les femmes puissent prendre des décisions éclairées.
Oui.
Il y a ensuite d'autres forums. Il ne faut pas oublier les femmes qui se chargeaient de l'excision des filles. Ces femmes, on les paye. Donc, même si elles poursuivent cette pratique, il faut pouvoir les informer et les sensibiliser. Cela fait un certain nombre d'années que nous avons mis en place ces forums.
Oui.
Et grâce à ces discussions, nous avons mis en place les rites de passage alternatifs qui ne sont pas néfastes pour la santé féminine. Nous avons gardé ce qui était bon dans notre culture, les choses positives, mais nous avons enlevé la pratique néfaste qui empêche les filles d'aller à l'école et met leur santé en danger. Et donc, nous avons gardé tous les points culturels positifs et nous avons enlevé toutes les parties culturelles qui étaient négatives. Ce faisant, nous avons réussi à empêcher l'excision de plus de 16 000 filles.
Bravo.
Et nous poursuivons notre travail et nous donnons la possibilité aux filles de poursuivre leurs études avec l'appui des membres de la communauté Maasai et d'autres tribus au Kenya et en Tanzanie, nous cherchons à nous étendre dans d'autres pays parce que, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'une question qui concerne seulement l'Afrique, mais le monde tout entier. Dans le monde entier, il y a plus de 3 millions de filles qui risquent l'excision en Afrique. Et dans le monde entier, plus de 200 millions de filles et de femmes sont excisées aujourd'hui.
Alors justement, quels ont été vos arguments face à ces anciens? En fait, moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Comment vous avez réussi à les sensibiliser? Comment vous avez réussi à les faire accepter, en fait, cette proposition NICE?
Changer les hommes, ce n'est pas chose facile. Pendant que ces filles subissent l'excision, elles subissent l'excision pour se préparer au mariage. Donc cela signifie que les hommes attendent de se marier avec ces femmes. Lorsque l'on fait l'excision, les hommes ne sont pas présents, ils n'ont pas le droit d'être là. Donc ils ne savent même pas ce que l'on fait aux femmes, ni comment on le fait. Ce ne sont que les femmes qui sont présentes et qui le savent. Donc nous essayons d'utiliser des vidéos pour leur montrer vraiment ce qu'il se passe et ce que
subissent leurs filles. Et comment ils réagissent lorsqu'ils voient ces images?
On a vu, quand on a utilisé ces vidéos, ça a été l'un des moyens les plus puissants de faire changer les hommes d'avis. Et beaucoup d'entre eux ont dit « je ne veux pas que l'on fasse ça à ma fille. Ma fille risque d'être tuée » et ceci leur permet aux hommes de s'apercevoir de la valeur qu'ont leurs filles. Qu'est-ce que cela veut dire d'envoyer une fille à l'école? Quand on est plus cultivé, on est plus riche. Mais quand on a l'excision, on a le droit de se marier, on a ensuite des enfants. Et on vous donne des vaches.
Oui.
Quand on vous donne des vaches en dot, est-ce que vous pouvez les vendre pour suivre un enseignement? Une femme, lorsqu'elle va à l'école, peut prendre des décisions éclairées.
Ouais.
Et donc l'homme qui se marie à cette femme éclairée se marie à une femme adulte et instruite. Et donc la femme pourra elle aussi avoir son mot à dire dans l'achat des vaches dans le foyer et savoir mieux négocier la vente de ces vaches. Donc les filles pourront mieux décider de leur avenir, décider de ce qu'elles voudront faire dans leur vie. Et il faut également veiller à ce que la communauté comprenne qu'on ne parle pas que de l'habilitation des femmes, mais si nous habilitons les filles, il faudra habiliter les garçons et leur donner les moyens de comprendre. Donc il faut que les filles et les garçons ensemble aillent à l'école.
Alors justement, ces jeunes filles à qui vous avez évité ces mutilations, vous le disiez tout à l'heure, au moins 16 000 filles, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce que vous les suivez toujours? Est-ce que vous avez des nouvelles de ces jeunes filles?
Oui, on a un suivi avec toutes les filles que nous avons formées et qui ont suivi le rite de passage alternatif dans la communauté. Il ne s'agit pas que de former les filles et de les laisser livrer à elles-mêmes après. Il faut veiller à ce qu'elles suivent des études, comme cela a été prévu. Il faut faire un suivi d'elles. Peut-être que l'année prochaine, elles passeront dans la classe supérieure, peut-être qu'elles auront des difficultés. Et c'est vraiment l'une des choses dont je suis très fière, c'est de voir ces filles à l'école aujourd'hui. Elles sont éloignées de toutes ces pratiques néfastes et elles ont la possibilité de suivre un enseignement, d'aller à l'école. Ce que je fais avec elles également, c'est d'instaurer une académie du leadership pour qu'elles puissent mieux défendre leurs droits et deviennent des championnes du droit des filles et des femmes. Parce qu'elles sont entourées de gens, elles peuvent elles aussi avoir une influence sur les filles et les femmes qui les entourent. Et comment peuvent-elles former les filles et les femmes qui les entourent pour défendre les droits des filles et des femmes ? Nous essayons de sensibiliser davantage de filles et de femmes en travaillant avec d'autres personnes, d'autres communautés, essayer d'atteindre davantage de personnes.
Rappelons tout de même pour les auditeurs qui nous écoutent que cette pratique est interdite par le gouvernement au Kenya depuis 2011, mais elle persiste quand même dans les zones rurales. Alors justement, c'est aussi les gouvernements, ce sont également les lois qui permettent de faire reculer ces pratiques. Est-ce que justement vous avez des partenariats ou même des connivences avec le gouvernement au Kenya?
Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement. Nous travaillons avec la MREF, bien entendu. Nous cherchons toujours à avoir des relations étroites avec les institutions gouvernementales. Et on travaille avec le gouvernement à tous les niveaux, et notamment au niveau des comtés. Ça, c'est très important. Comme je l'ai dit, il est très important d'avoir des lois, parce que c'est la base qui nous permet de rendre le gouvernement responsable de ses actes. Mais il s'agit là d'une pratique culturelle, d'une question culturelle. La loi elle-même ne peut pas mettre un terme à ces mutilations. Il faut voir les choses comme un droit de la personne. Et si les gens savent de quoi il s'agit, savent ce que la suppose, si les gens comprennent les conséquences de ces mutilations, et en veillant à ce que tout le monde soit au courant de ceci et que l'on parle de la loi, on permet aux gens de comprendre quelque chose de très important. Les communautés sont très braves, courageuses. On ne peut pas utiliser la force contre une communauté pour changer les comportements. Et donc, si on leur impose la loi, les communautés se débrouilleront pour faire autrement. Donc, un enfant qui ne peut même pas comprendre ce qui lui arrive, ce qui arrive à son corps, ne s'aperçoit même pas de ce qu'on lui fait à l'âge de 2 ans. Donc, il y a aussi des excisions qui se font en Éthiopie. On emmène les filles à l'Éthiopie ou parfois en Tanzanie. Donc, la loi ne permet pas de mettre un terme à l'excision. Donc, si on compte sur la loi toute seule, on n'y arrivera pas. Donc, nous veillons à donner les moyens aux communautés de résoudre leurs propres problèmes, parce que je pense que lorsqu'elles disposent des outils pour leur faire, lorsque leurs capacités sont renforcées, les communautés peuvent prendre des décisions éclairées et résoudre leurs propres problèmes.
Alors, vous êtes venu nous parler justement de votre intervention à 17h à l'AFD, c'est l'Agence française du développement, c'est à l'auditorium Le Mistral, 3 place Louis Armand, dans le 12e arrondissement de Paris, avec des professionnels du secteur, mais aussi la MREF qui est à l'origine de cet événement, accompagné par les réseaux d'excision Parlons 11 ans, entouré également des associations comme la Maison des Femmes et de SOS Africaines en Danger. Ce sont des femmes qui combattent, qui agissent également sur les territoires français, qui viendront aussi partager leurs histoires et leurs expériences. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour terminer, à qui nous écoute aujourd'hui en direct sur l'antenne d'Africa numéro 1, Naïs?
Je voudrais rappeler à tout le monde que les mutilations sexuelles féminines ne sont pas un problème africain, mais un problème planétaire. Nous ne pouvons pas mettre un terme aux mutilations sexuelles féminines tout seul si le monde ne nous accompagne pas. Lorsque l'on parle de la violence fondée sur le genre, il faut impliquer les hommes, les communautés d'où nous venons. Ne nous permettent pas d'assumer un rôle de leadership. Comment pouvons-nous adopter une approche globale pour faire comprendre à tout le monde que c'est une approche néfaste, que c'est une violation du droit de la personne et que nous devons y mettre un terme? L'autre message que je porterai ce soir est que nous devons œuvrer de concert. Une seule personne ne peut pas mettre un terme à ces mutilations. C'est un effort collectif. Il y a des institutions qui font un travail exceptionnel, des communautés qui font un travail exceptionnel, des associations aussi. Comment pouvons-nous trouver une solution durable, mondiale et qui sera applicable pour toutes les communautés? Il n'y a pas une solution unique. On ne peut pas transposer un rite de passage alternatif à une autre communauté et la plaquer dessus. Donc comment pouvons-nous adapter toutes ces possibilités et aider les communautés locales à résoudre leurs propres problèmes?
En tout cas, on vous remercie d'être venu à nous parler de ce combat noble sur l'antenne d'Africa numéro 1 et on se donne rendez-vous puisque j'aurai la chance de modérer et de présenter l'événement ce soir à l'Agence française de développement. Merci beaucoup et puis bon retour sur l'antenne d'Africa numéro 1, Anaïs. À très bientôt.
Merci.
À très bientôt.